Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio. Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
On y revient au mastic. Il est 17h08, on est sur RMC comme tous les jours. Vous le savez, on est avec le Stifoulet.
Oui, bonjour.
Il est avec nous, ça va Stifoulet?
Oui, en pleine forme, merci Vincent. T'es
en forme, mon petit poulet?
Ouais, bien
comme il faut.
Bien comme il faut.
Bon. Bon, Eric Dimeco.
Mon petit poulet sur la tête, tu veux dire.
Oui, voilà, ça va.
Elle était bonne, cette punchline. Ouais, quand même.
Super, super, Eric.
Non, moi, j'ai beaucoup aimé, moi.
Il est allez, Adrien, oui, mon petit Pierrot.
Alors dans une demi-heure, il va enlever son poulet qui est sur sa tête. Là, il va nous parler de son sport à lui, le basket, parce que la nuit dernière, c'était historique pour la France. Trois Français draftés parmi les 10 premiers en NBA. Surtout, les deux premiers sont des Français, Zachary Risaché et Alexandre Sarr. On en parle à 17h30 et ensuite, ce sera le Kikedi pour gagner 100 € en bon d'achat chez notre partenaire. footdimanche.com. Vous envoyez Kikedi par SMS au 732-16. Tout de suite, l'histoire va s'écrire sous nos yeux.
Un éclair dans la montagne venu de Slovénie.
Tadej Pogacar a esquissé un petit sourire parce qu'il le sait, il est en train de marquer l'histoire.
Ça fait partie de l'histoire, mais on est qu'un chaînon de l'histoire.
Tadej Pogacar, plus jeune vainqueur du Tour depuis plus d'un siècle.
Quelqu'un qui aime le combat, qui ferraille, qui lâche rien,
depuis
qui a
des années. Des un ange blanc bouscule tout sur son passage.
Comment on pourrait dire ces gens qui partent sur la route, pas les évangélistes, mais presque, non.
Et dans le dos, la pancarte du favori aussi.
Quand le requin vient dans la gemme, il doit pas soumettre le lion. Quand le lion il va dans la mer, c'est le requin qui est le chef.
Mais pas de quoi troubler un gamin de 22 ans, pour qui le cyclisme reste avant tout un jeu.
Levez des doutes. Si vous vous en avez, je sais pas si ça vous allez les enlever.
Non, mais là, ça n'a rien à voir avec le cyclisme. Eric dit quelque chose, là.
Non, moi, je peux.
Allez, on rigole pas, là. On passe. Par contre, la jungle, on peut rigoler.
La jungle. Oui, la jungle, et puis surtout le lion qui va dans la mer.
Moi, si, je pense que.
Souvent, j'ai vu des lions essayer d'aller faire la loi dans la mer.
Didier Deschamps ne serait pas évangéliste.
Oui, en tout cas, Vingegaard et Pogacar, j'ai l'impression. On va revenir donc au Tour de France et on accueille Christophe Cessieux. Salut, Christophe.
Bonjour, les copains.
Salut, Christophe.
En direct d'Italie, puisque le tour part de Florence samedi.
Exactement, à Florence. Oh, beau, nous sommes sur une petite terrasse avec Pierre-Yves Leroux, vue sur les plus belles églises de la capitale de la Renaissance. On est très très bien là, très très bien. Et on mange des bonnes pâtes et des bonnes pizzas. On est au taquet.
Bon, alors c'est parfait pour faire un bon débat. Tour de France, Tadej Pogacar, grand favori. Jonas Vingegaard, double tenant du titre, est finalement présent au départ après une grosse chute sur le Tour du Pays Basque 4 avril. Le duel Pogacar-Vingegaard aura-t-il bien lieu? 32-16 et Twitter, hashtag RMC Live. On veut savoir donc dans quel état se trouve Vingegaard, Christophe?
Eh ben, la réponse, on l'aura peut-être ce soir, puisque 12 semaines très précisément après sa terrible chute dans le Tour du Pays Basque, on rappelle qu'il avait été victime de fracture à la clavicule, fracture aux côtes, contusion pulmonaire, pneumothorax, le poumon qui est quand même un organe dont les sportifs et plus particulièrement les cyclistes peuvent avoir besoin pendant 3 semaines. Eh bien, il va donner sa première conférence de presse. Jusque-là, c'est vrai qu'il avait été très silencieux, aucune interview, aucune course disputée depuis cet accident. Et là, eh bien, tout à l'heure, dans 1h30 maintenant, il va donner sa première conférence de presse et on va savoir dans quel état il est. Enfin, on espère évidemment savoir dans quel état il est parce que on n'en saura pas plus avant le départ de la course. Ce que l'on sait, c'est que depuis cet accident, il a quand même repris le vélo le 7 mai dernier. Il a fait quelques petits stages. Ensuite, il est parti en altitude à Tignes avec ses camarades et les données enregistrées par le staff de l'équipe ont permis de le laisser participer à ce Tour de France. Alors on ne sait pas dans quel état il sera parce qu'évidemment quand on a de telles blessures et qu'on est le commun des mortels, il faut un an à peu près pour récupérer et là on est seulement quelques semaines après, donc on espère évidemment qu'il sera au sommet, mais ses coéquipiers ont du mal à y croire. Tige Benoît par exemple disait dans un journal belge hier, aucun des membres de l'équipe n'a pronostiqué, n'a mis un copec sur une présence de Vingegaard sur le podium final du Tour de France, donc voilà, on est quand même un peu dubitatif sur les performances performance du Danois dans quelques jours.
Alors en tout cas, c'est déjà presque un miracle qu'il soit là, puisqu'au moment de sa chute, on imaginait qu'il était forfait. Et ce qui est très particulier cette année, c'est que Pogacar, sur le papier, hein, n'a pas beaucoup de concurrence, parce que Roglic a aussi chuté, Evenepoel aussi. Finalement, c'est Pogacar et les autres, quoi, Christophe, un peu ce tour-là.
Alors sur le papier, Pierrot, il y a une grosse concurrence. Au contraire, c'est l'un des plus beaux plateaux réunis par le Tour de France depuis des années. Vingegaard et Pogacar qui sont les quatre derniers vainqueurs, hein, qui ont remporté les quatre dernières éditions. Roglic qui était vraiment dans le coup, qui avait failli remporter, on se souvient, ce Tour de France, il avait été battu lors de l'avant-dernière étape dans ce contre-la-montre à la planche des Belles-Filles. Remco Evenepoel, champion du monde, vainqueur de la Vuelta il y a peu de temps. Sur le papier, c'est extraordinaire. Mais effectivement, les trois gros adversaires de Pogacar ont été victimes de la même chute lors de ce Tour du Pays Basque. Alors Vingegaard a été le plus sérieusement touché, mais les autres également ont été victimes. On rappelle quand même que Roglic vient de remporter le Dauphiné et que Remco est quand même un cador. Et puis il y a aussi les lieutenants de Vingegaard et de Pogacar, notamment Jorgensen qui a remporté Paris-Nice, qui a terminé deuxième du Dauphiné. Donc il y a du beau monde sur le papier. Mais c'est vrai que Pogacar a fait une telle démonstration dans le Giro qu'il a remporté avec près de 10 minutes d'avance sur son dauphin que comme ça on se dit qu'il n'aura pas d'adversaire, mais en tous les cas, sur le papier, c'est magnifique et on espère qu'on va se régaler.
Et puis, bien sûr, il y a une donnée à prendre en considération. On en a déjà débattu, Vincent, c'est que Pogacar vient de remporter le Tour d'Italie, qui a quand même pas beaucoup de semaines de récupération entre les deux. Non, oui, mais c'est un vrai truc à gérer.
Oui, mais j'ai l'impression qu'il est plein de balles. C'est justement, il a dû surfer. Il y a eu quoi, 3 semaines, 4 semaines entre le Tour d'Italie et le Tour de France. C'est ça, c'est fini il y a à peu près un mois.
Je te le confirme.
Oui, mais c'est ça, il y a un mois et trois jours.
Il y a à peu près un mois. Écoute-moi, il a pu récupérer. Tu le vois, il est plein de balles. Il y a personne. Alors, Vingegaard, faut pas nous quand même prendre les enfants.
Vingegaard.
Écoute-moi, il faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il peut rien faire quand même. Ça serait nous mentir de dire qu'il peut faire quelque chose. Il peut figurer, prendre le départ. Ça sent quand même l'abandon. Avec qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, c'est un surhomme. Et puis, il y a que Roglic, donc à partir de là, il est un peu seul. Il a quand même la voix sacrée, la voix royale pour faire le doublé.
Pour toi, il n'y aura pas de duel, Vingegaard.
Mais il n'y aura pas de duel. Il va finir comme un Tour d'Italie. Il va finir, mais 5 minutes d'avance, il va éclater tout le monde. Il n'y aura pas de duel. Je le pense pas. Après, il peut en sortir un, mais Van der Poel, bon, mais sur le tour, il est pas, je pense pas qu'il soit invité. À ce niveau-là, il n'est pas invité sur le tour. Donc, je crois que je pense que c'est écrit. Attention, les autres tombent, il peut tomber aussi. Mais bon, je pense qu'il va être prudent parce qu'il aura le temps d'être prudent.
Eric.
Ouais, en plus il a une grosse équipe, hein, Christophe. Hein, il a un peu une dream team là. Donc malgré le fait qu'il soit grand favori, je pense que il y a quand même des grands coureurs, alors qui pourront peut-être pas tenir sur les 3 semaines, mais qui seront capables de faire des coups. Et donc on va encore se régaler, quoi. Je pense qu'on va encore se régaler. Donc c'est toujours du très très haut niveau. Et attention, hein, Vingegaard, il peut aussi. Alors peut-être qu'il aura pas la caisse pour les 3 semaines, mais s'il revient, il peut aller.
Après, le problème, Christophe, enfin excuse-moi Eric, mais le problème c'est que ça démarre très fort et que Vingegaard va sûrement vouloir se tester sur le début du tour et que Pogacar va peut-être assommer le tour d'entrée de jeu, non?
C'est surtout Pogacar qui va vouloir tester son adversaire. Il y a deux premières étapes de moyenne montagne dès samedi et dimanche. Et on l'a bien compris dans les propos de Pogacar, il a envie de mettre au supplice son adversaire dès le début. Et il sait que s'il lui met 2-3 minutes dès la première semaine, lorsque Vingegaard ne sera pas encore tout à fait remis, Vingegaard qui espère monter en puissance pendant tout au long du Tour de France et d'arriver au sommet pour la 3e semaine qui sera la plus difficile. Mais enfin, si tu prends déjà 2-3 voire 5 minutes dans les deux premières étapes, ça sera impossible, évidemment. De revenir, quoi. C'est ça le souci.
C'est bizarre d'attaquer par la montagne d'entrée de jeu avant, ça n'existait pas, ça, non? C'est nouveau quand même d'attaquer sur les deux premières étapes. Avant, t'attendais un petit moment avant d'aller dans les Alpes, dans les Pyrénées, après dans les Alpes.
Mais il n'y a pas de règle en fait.
Et stratégiquement, ça te fait que quand même un mec comme Pogacar, il peut assommer le tour dans les deux premières étapes. Et bonsoir Clara, que sur du plat.
Quand ils font le parcours, ils ne savent pas que Vingegaard est diminué en fait.
Ouais, tu vois, c'est fait en amont. Et surtout, la vraie différence par rapport aux années précédentes, où on disait que la Visma de Vingegaard était la Dream Team et avait une équipe hors norme, c'est que là, ça s'est un petit peu inversé. Il a perdu Sepp Kuss, qui était un coéquipier exceptionnel, Vingegaard, et que maintenant, c'est Pogacar, en fait, avec UAE. C'est la meilleure équipe UAE qu'il a jamais eue, Pogacar.
Et Christophe, Pogacar, il peut assumer le jaune si tôt? Parce qu'on sait que parfois porter le maillot jaune,
il y a des mecs qui prennent des jaunes à 6h du matin.
Non, mais la première semaine, ouais, même pour la geste, pour l'équipe, etc. Tu vois la course différemment. Alors forcément, tu es leader, tu vas peut-être frapper très fort, mais il faut savoir l'assumer, hein, de porter le jaune si tôt.
Rappelle-toi, Adrien, ce qui s'est passé sur le Giro. Il a pris le maillot rose dès la deuxième étape. Hein. Il l'a porté jusqu'à la fin et il a fait qu'accroître son avance au fur et à mesure. Il a chaque fois eu envie d'éclater ses adversaires.
Il était un peu seul.
Ce mec-là, c'est un boxeur.
Il était beaucoup plus seul, Christophe, quand même, sur le Giro.
Oui, c'est sûr. Tu as raison. Il n'y avait pas le même plateau face à lui. Mais ce mec-là, il a toujours envie de faire la course. Il a pas envie de perdre, il a envie de gagner tous les jours. Donc, oui. Assumer le maillot jaune avec l'équipe qu'il a, je pense qu'il peut le faire.
Après, il redoute quelque chose, Pogacar. C'est ce contre-la-montre la veille de l'arrivée. Parce que là, il sait qu'il n'est pas forcément le plus fort sur le contre-la-montre. Et que perdre 2 minutes, ça peut arriver sur une étape comme celle-ci. Et donc, il va falloir qu'il fasse la différence avant. Ça peut...
Ça peut
quand même donner un intérêt supplémentaire à ce tour, parce qu'il y aura toujours dans sa tête, jusqu'à l'avant-dernière étape, c'est bien la veille de l'arrivée, on est d'accord, hein,
le contre-la-montre, ce sera le jour de l'arrivée.
Le jour de l'arrivée. Il y a toujours cette dimension-là qui va lui trotter dans la tête. Il en a parlé aujourd'hui dans sa longue interview dans l'équipe, hein, où il sait que tout peut se passer. Tu peux avoir un éclat. Vingegaard est meilleur que lui sur cette discipline-là. Et donc, il va devoir, quoi qu'il arrive, accroître son avance, continuer de prendre des risques. Ça peut nous éviter peut-être un tour soporifique et comment dire, assommé d'entrée de jeu par Pogacar. Il devra prendre des risques, non?
Ouais, mais enfin, si Pogacar leur met 3, 4, 5
ça,
minutes jusqu'à la dernière étape, ce sera difficile de rattraper un tel retard. Alors évidemment, ça c'est la volonté des organisateurs d'avoir voulu faire comme ce qui s'était passé en 1989. Vous vous rappelez le contre-la-montre qui est resté dans les annales avec la bagarre entre Fignon et Lemon, et Fignon qui avait perdu le tour pour quelques secondes. Ils espèrent, mais pour cela, il faudrait que les deux hommes soient séparés d'une minute, 1 minute 30 maximum. Si on est au-delà, Pogacar ne prendra pas un éclat de 3 ou 4 minutes dans le dernier contre-la-montre.
Toi, tu le sens Chris, ce tour?
Quoi?
Toi, tu le sens comment? Ça va ressembler au Giro?
Non, parce que le plateau est plus beau. Il y a quand même plus de beau monde quand même. Il y a tous les meilleurs, hein. Tous les cadors sont présents au départ du tour. Alors ils sont plus ou moins diminués, mais ils sont tous là. Mais c'est vrai que Poggi est tellement fort qu'on a peur, on redoute évidemment, surtout de... qu'on s'est tellement régalé l'année dernière, il y a 2 ans, et il a fallu attendre la dernière semaine pour que le tour bascule d'un côté ou de l'autre, qu'on espère avoir la même chose. Mais bon, c'est vrai que cette chute dans le Tour du Pays Basque a rebattu les cartes.
Tu nous refroidis un peu sur cette dernière étape quand même, Christophe, le contre-la-montre, parce que quand même là, il y aura quand même beaucoup plus de risques malgré tout. Comme le dit Pierrot, il y a des conditions de course qui sont différentes de la parade sur les Champs-Élysées à laquelle on a le droit chaque année. Je veux dire, s'il a une grosse contre-performance en contre-la-montre, imagine, on sait pas, il a une fringale, il a un coup de mou énorme. Il est tout seul. Non, mais je veux dire, il est seul. Il n'y a pas de coéquipiers qui vont être là pour aller le chercher, pour le couvrir, pour s'occuper de lui. Non, mais on ne sait jamais.
Tout dépend avec l'avance.
Ça dépend de l'avance. C'est quoi, Christophe? C'est 2 minutes?
Ouais, au max. Vraiment, même
à moins de 2 minutes, on peut espérer un peu de suspense.
C'est pas une pipe, hein, pour Gatchard non plus, contre la montre.
Ouais, c'est ça. Non. On évoque toujours le contre la montre de l'année dernière à Passy. Il avait pris quoi? 1 minute 38, je crois, pour Gatchard.
Voilà,
et il termine deuxième de l'étape, quand même, derrière Vingegaard. Donc, tu vois, il prendra pas un éclat de plus d'une 32 minutes au maximum. Mais Vingegaard,
il arrivera avec 7 minutes, le
Vingegaard de l'an dernier dans 15 jours. Moi, je suis pas sûr, hein.
Je crois qu'il y a que les Français. Il y a que les Français qui vont pouvoir sauver ce tour, non?
Les Français, on va en parler demain, ne t'inquiète pas. Ils sont ambitieux, figure-toi.
Voilà,
Quel genre d'ambition?
On a la troisième équipe de l'année.
Christophe revient encore demain. Ça fait beaucoup de boulot pour Tatov, ça.
Et c'est normal, ouais, c'est le Tour de France.
Arrête, je suis débordé, Steve, tu ne te rends pas compte.
S'il y a un invité surprise, ça peut être qui, Christophe, pour troubler ce duel-là?
Le chauffeur du bus.
Moi je mise sur un garçon qui s'appelle Jorgensen, qui est équipier de Vingegaard. La Visma a dit non, il n'est pas fait pour gagner le Tour cette année. Il a gagné Paris-Nice, il a fait deuxième du Dauphiné. C'est un jeune Américain qui est aussi doué dans les courses d'un jour que dans les courses par étapes. Moi, je pense que c'est, si Vingegaard explose rapidement, je pense que c'est une sacrée roue de secours pour la formation Visma.
Oui, parce que forcément, ils ont prévu cas où Vingegaard même ne participait pas. Donc ça, ils l'ont anticipé forcément. 32-16, le duel Pogacar-Vingegaard aura-t-il bien lieu ? Nous accueillons Mickaël. Bonjour Mickaël.
Comment il va ?
Bonjour.
Salut.
Bonjour à tous.
Salut Mickaël.
Sur la question, moi, je me suis dit depuis déjà des mois que ce ne sera pas un match à 2, mais un match à 4.
Avec qui ?
Avec Evenepoel et Roglic en plus.
Alors Roglic, le problème de Roglic, c'est que il a montré sa limite face à Pogacar. C'était il y a 3 ans, Chris.
Ouais, il a quand même une sacrée équipe hein, aussi hein, autour de lui. Hein.
Ouais.
Vous dites quand même l'UAE, mais lui, il a Vlasov et Hindley. Il a quand même une sacrée équipe et Remco, voilà aussi. Evenepoel, bon, il a quand même Landa avec lui. Et Remco, il a un avantage, c'est que sur le contre-la-montre, il a, je pense, une longueur d'avance.
Ouais, mais il avance pas en montagne. Il avance pas en montagne, Evenepoel.
Ah bah, quand tu gagnes, il a gagné la Vuelta et l'an dernier.
Cette année, il avance pas. Tu as vu les éclats qu'il a pris dans le Dauphiné, tu penses qu'il peut battre Pogacar, franchement.
Et en 2014, Nibali, il termine bien 3-4 minutes et il gagne le tour un mois plus tard. C'est pas parce qu'un mois plus tôt sur le Dauphiné, vous êtes à la rue, qu'un mois plus tard sur le tour, vous serez à la rue. Evenepoel, l'an dernier, s'il n'est pas contrôlé positif au Covid sur le Giro, il le gagne. Donc je pense que voilà.
Après, Thibaut Pinot, s'il se blesse pas, il gagne le tour
aussi. Aussi. Donc voilà. Après, Vingegaard, je pense que s'il a été en stage à Tignes, c'est pas pour rien. Si l'équipe Visma l'a pris, c'est qu'il est à 100%, parce que sinon il l'aurait pas pris, je pense. Il va pas sur le Tour de France pour aller faire du tourisme. Donc, je pense qu'il sera là et on connaît Vingegaard, c'est un champion. Voilà, l'an dernier, il a explosé Pogacar et je pense qu'il sera là. Et puis, Pogacar.
Ouais, juste.
Pogacar est tellement au-dessus de la mêlée, Pogacar, que. Voilà, mais après, sur le Giro, il y avait Daniel Martinez, Thomas et O'Connor. Sur le Tour, il n'y aura pas cette même concurrence.
Juste sur le Karoglič, Christophe, je sais pas si c'est il y a 3 ou 4 ans, mais il avait un tour pour lui, entre guillemets, c'était écrit qu'il devait le gagner. Et puis il y a ce jeune Slovène, donc son compatriote, qui l'avait éclaté. C'est-à-dire qu'il n'avait pas
il avait même pas laissé la place.
Contre la montre,
Pierrot. Exactement.
C'était dans un contre la montre, la veille de l'arrivée. Donc un peu dans la même configuration que cette année.
Sa chance est passée, non ? Roglic.
Roglic, je pense, ouais. Ouais, Roglic, il a quoi, 33.
Ah, Mika n'est pas d'accord.
Mika,
oui, vas-y. J'allais dire, et comme on dit toujours dans le cyclisme, ce n'est jamais une science exacte.
Oui,
voilà. Mika, on ne le dit pas que dans le cyclisme.
Parce qu'on parle toujours d'un duel, le duel Pogacar-Vingegaard, mais en fait, on ne sait pas.
On n'en sait pas, bien sûr. On se donne rendez-vous alors, Mika.
Est-ce que
Mario Cipollini est capable de gagner l'étape par contre ou pas ?
Ah non, mais quand même. Voilà.
Non, mais il y a Cavendish là. Qui c'est qui fait son dernier tour là, son jubilé.
Cavendish, mais pas en montagne.
Non.
Cavendish pour les sprints. Hein,
mais oui, voilà. Mais est-ce que il peut aller chercher une là du coup, parce que il est là pour ça lui.
Ah oui. Alors pour les victoires d'étape, c'est un autre truc. Mais bon, il y a quand même un Philipsen qui avait remporté 4 étapes l'année dernière, qui est vraiment au-dessus et qui a quasiment 10 ans de moins que lui. T'as des jeunes sprinteurs qui sont au sommet, mais ce serait extraordinaire parce que on rappelle que Cavendish est à la recherche du record de nombre de victoires d'étape sur le Tour.
C'est quoi, 35?
Pour l'instant, il partage ce record avec Eddy Merckx. Et s'il en remporte une 35e, eh bien, il sera le plus grand de tous les temps.
Enfin, d'avoir gagné 35 étapes. Ouais. Il a gagné 34 là et 35 qui serait seul.
Merci Eric pour cette question, parce qu'on pensait que tu avais disparu du débat.
Je me suis posé la question, c'est Denis qui est parti ou Eric ? Non mais attends, c'est le supporter avec le coq là qui vient de m'interpeller.
Oui, c'est Stéphane.
Bon, merci petit Michael qui est chaud bouillant pour ce Tour de France, qui va écouter RMC, parce que Christophe, évidemment, comme chaque année, comme chaque été, le Tour c'est en intégralité sur RMC. Hein.
C'est bon, oui, tous les jours. On va vous permettre de partir encore en vacances. Heureusement qu'on est là quand même pour vous permettre
c'est
de partir en vacances.
Ouais, oui, c'est vrai. Rien de toute l'année.
Merci Christophe.
Moi je suis en vacances. Moi je suis en vacances 11 mois et non un mois, mais c'est pas mal. Moi je trouve que la répartition est très bonne comme ça.
Merci beaucoup Christophe. Demain on va parler des chances des Français. Ah, et il y a une équipe.
Court, alors.
Ah attention, méfie-toi de la G2R, Décathlon, la mondiale. Alors, je sais pas combien ils ont de noms, Chris, mais ils sont très ambitieux. Hein. On va en parler demain.
Ouais, ils sont... Mais pas pour le classement général.
Non, non mais on va s'amuser quand même avec les Français, on espère en tout cas. Dans un instant, la draft NBA a mis à l'honneur la France. Oh. Messieurs, dames, Cocorico, ça continue sur RMC. À tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
17h31, le Super Moscato Show, il revient bien sûr au Mastic, mon petit Pierrot, sur RMC dans un quart d'heure.
Dans un quart d'heure, le Kikadi. Le Kikadi vous offre 100 euros à dépenser sur le site footdimanche.com, la marque préférée des fans de foot. Votre suite vintage de votre équipe préférée, par exemple, vous le commandez sur footdimanche.com. D'abord, le basket, c'est sur RMC.
RMC,
le cri du cœur du Super Moscato Show.
C'est plus que jamais sur RMC, puisque cette saison, Basket Time a battu des records de téléchargement.
Bravo les gars.
C'est un phénomène, oh non, c'est un vrai phénomène de la Valorant. Chaque semaine,
on prend le Moscato Show en otage. On prend
rappelez-moi le thème du Basket Time.
La préparation olympique.
Très bien.
Qui a démarré avec
Road
Victor
Wembanyama.
Je compte sur vous pour faire quelques éditions pendant les JO.
Non, ça va aller, merci.
Peut-être.
Bah quand même.
Pourquoi pas, ouais.
Un Basket Time spécial JO, là.
Moi, je suis à Lille, moi.
C'est B2, il y a des moyens techniques à Lille, tu vas faire de l'antenne.
Oui.
Donc tu peux faire un podcast.
Oui, peut-être. Ouais.
Voilà.
On peut le faire, ça.
Bah ça, en tout cas, moi, je le réclame.
Alors,
moi aussi.
On parle pas des Jeux Olympiques, on parle de la NBA. Vincent, c'est une nuit historique pour la France, puisque la draft a consacré les deux Français, Zachary Risaché et Alexandre Sarr, premier et deuxième choix. Ça n'est pas terminé, puisque il y en a un troisième qui est sixième, Tidjane Salin. Et ça pourrait continuer. En tout cas, c'est historique. Ça n'est jamais arrivé. Donc, parle-nous, Stephen, de Zachary Risaché, d'Alexandre Sarr et de ce que ça veut dire pour le basket français.
Bah écoute, Zachary Risaché, c'est le fils de Stéphane Risaché, vice-champion olympique à 2000, qui a joué un peu partout en France et surtout en Espagne à Malaga. Et c'est pour ça que Zachary Risaché est né à Malaga. C'est un garçon qui fait 2m06, qui joue sur le poste d'ailier. Il a été drafté par les Hawks d'Atlanta, qui est une équipe qui a terminé 10e de la conférence Est. Donc c'est une équipe qui est plutôt compétitive, Pierrot, qui n'est pas dans les bas-fonds de la NBA. Et Zach a été très bon avec Bourg-en-Bresse, qui a été élu le meilleur jeune de l'Eurocup, qui est la deuxième Coupe d'Europe. Le problème pour Zach, c'est que... Est-ce que c'est un problème? Oui, je pense que ça va être un problème, parce que les Américains, ils vont lui mettre une cible dans le dos, c'est-à-dire la cible de numéro 1 de draft après Victor Wembanyama. C'est-à-dire, ah, c'est-à-dire que les Américains vont vraisemblablement attendre les garçons, qui, enfin les non-spécialistes et qui se disent numéro 1 de la draft après Victor Wembanyama, ils vont peut-être s'attendre à ce que Zachary Risaché fasse du Victor Wembanyama, alors que ça ne sera pas le cas. Zachary Risaché est un...
Mais tu crois pas qu'ils en ont conscience que c'est pas le même?
Nous on en a conscience, Pierrot. Mais ben je sais pas. Peut-être qu'il y a des garçons qui sont pas aussi. Si. Mais à un moment donné, quand t'es en fait, le numéro 1 de la draft, c'est une année un peu particulière parce que dans cette draft là, on n'attend pas de phénomène qui va révolutionner le basket, comme l'a été Victor Wembanyama, comme l'a été LeBron James, comme l'a été aussi Chet Holmgren il y a deux ans. C'est une draft d'un niveau moyen où il y a pour le moment pas de superstar à l'horizon. Voilà. Donc Zachary Risaché va être un. Je sais même pas s'il sera dans le 5 de départ du côté des Hawks. Il y a déjà deux joueurs majeurs qui sont Trae Young et Dejounte Murray, mais qui alimentent beaucoup les rumeurs de trade. Donc Zachary Risaché est un joueur complet, grand, qui va apporter la défense, qui met du tir à trois points, mais qui ne tournera vraisemblablement pas sur la première saison à 16, 17, 18 points de moyenne comme l'a fait Victor Wembanyama. Voilà.
Donc il faut pas, il faut rester assez prudent. Juste un mot sur Alexandre Sarr.
C'est un phénomène différent, Alexandre Sarr. C'est un garçon qui fait 2m16, né à Bordeaux, qui a été drafté par les Washington Wizards, qui eux sont en pleine reconstruction, qui ont été dans les bas-fonds. Ils ont gagné 15 matchs cette année. Ils ont gagné moins de matchs que les Spurs encore. C'est pivot. Ailier fort, pivot, phénomène athlétique, 2m23 d'envergure, une mobilité extrêmement rare pour un garçon de cette taille-là, de haut de ses 2m16, qui peut défendre sur tous les postes de jeu. Très gros volume défensif, ça met des comptes, ça traverse le terrain, ça progresse sur le tir à 3 points. C'est très spectaculaire parce que c'est très aérien, c'est un garçon qui est très longiligne aussi. Et les Américains disent que c'est peut-être le plus beau prospect de cette draft-là, qui, sur la marge de progression, c'est celui qui peut aller le plus haut. C'est un garçon qui a pas passé beaucoup de temps de formation en France. Il est resté jusqu'à 14 ans. Ensuite, il est parti au Real Madrid de 14 à 17 ans. Et ensuite, il est parti dans une ligue de développement. Et l'année dernière, il était en Australie dans un championnat professionnel. C'est une, on n'a pas beaucoup de vision, nous, en France, de ce garçon-là, de ce que ça peut donner. Mais c'est 2m16, 2m23 d'envergure. Ça fait fantasmer beaucoup de monde.
Alors, dis-moi.
Vas-y, Eric.
Non, non, moi, j'ai une question. Est-ce que le fait qu'on ait deux Français cette année, premier et second, drafté, là, c'est un petit peu la résurgence de ce qui s'est passé avec Wembanyama, finalement. C'est-à-dire que la réussite de Wembanyama a mis un focus sur les Français qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il n'y avait pas eu Wemby l'année dernière.
Oui, et non,
c'est la mode, quoi, dire.
Il y a peut-être ce phénomène de mode-là, mais attends, c'est pas la première fois qu'il y a beaucoup de Français au premier tour. On se rappelle qu'en 2016, on a eu 5 joueurs draftés français. Ça a été le record.
Qui sera peut-être battu.
1 et 2, ça vient aussi du fait que c'est une draft très compacte, qu'il n'y a pas de mecs qui sortent du lot. Ça vient aussi que la formation française est très bonne et que Zachary Zaché. On s'aperçoit aussi que les Américains, aujourd'hui, le championnat universitaire, qui est devenu rémunérateur, puisque aujourd'hui, les universitaires touchent de l'argent. En termes de formation, ils sont en retard sur ce qu'au fond l'Europe. C'est-à-dire que les gamins comme Zachary Zaché jouent un championnat professionnel, ils arrivent en NBA, ils sont prêts parce qu'ils ont joué.
Ils sont prêts pour le haut niveau.
Ils sont prêts pour le haut niveau
parce que les universités, c'est moins bon.
Oui, c'est moins fort aujourd'hui.
Les
matchs sont d'un moins bon niveau. Aujourd'hui, quand tu joues en Eurocup, quand tu joues en première division française ou même en Australie, tu joues des matchs qui comptent. Tu joues des mecs qui ont 25, 30, 35 ans.
Tu te fais rentrer dedans et
tu joues des matchs avec un vrai enjeu, tandis qu'à la fac, je te dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu, ouais. Mais tu joues des garçons qui ont ton âge, 18, 19, 20 ans, et le développement est moins bon. Et aujourd'hui, il y a un fantasme des scouts qui viennent en Europe pour trouver des pépites, et des pépites en France, il y en a énormément, puisque c'est dans les compétitions de jeunes, la France est médaillée aussi. Et puis Cholet qui sort encore un garçon qui s'appelle Tidjane Salin, qui est numéro 6 de la draft. Hein. C'est le 8e ou 9e garçon qui sort de la pépinière de Cholet, qui fait 2m6 aussi, et en 2 mois, il est passé d'une prévision 25e choix à aujourd'hui 6e.
C'est étonnant, non?
C'est étonnant, drafté par Charlotte, où là aussi il y a une place à se faire, mais c'est un phénomène aussi athlétique, il est grand, il va très haut. Donc et puis on a oublié qu'il y a un garçon qui a été drafté en 25e position, Paco Mdadié, qui était à Ulm en Allemagne et qui va jouer au Madison Square Garden, drafté par les Knicks de New York. Knicks,
et voilà, juste un truc, on se dit forcément avec les deux premiers choix de draft que l'avenir de l'équipe de France est radieux. Est-ce que c'est forcément le cas?
Oui, c'est le cas.
Il y a aussi des premiers choix de draft qui font jamais rien.
Oui,
des premiers tours de draft qui ne confirment pas.
Alors, qui ne confirment pas pour être des LeBron James, oui, mais des premiers tours des premiers choix de draft qui sont des bons joueurs, et cette équipe de France, elle a un avenir énorme. Quant à Bilal Koulibaly, quant à Victor Wembanyama, qui sont amenés à être là encore pendant 10 ans, que tu rajoutes ces jeunes-là, et que l'année prochaine, il y a un garçon.
Joël Embiid,
bien sûr. L'année prochaine, il y a un garçon qui s'appelle Nolan Traoré, qui est aussi prédestiné pour être dans les 5 meilleurs draftés de la QV de 2025. Donc, cette équipe de France.
Ça veut dire quoi? Dans 5 ans, on a une équipe de fous?
Déjà, on en a une qui est très intéressante, mais à Los Angeles, oui.
On va être champion olympique chez les Américains.
Est-ce qu'on peut aller les taper chez eux, les
Oui, après, le problème, c'est que le vivier américain, il est monstrueux. Et j'ai préparé un petit peu d'oseille pour Vincent, parce que ça intéresse forcément Vincent. Zachary Zaché, numéro 1 de la draft, va gagner 2 millions de plus que Victor Wembanyama, parce que le nouveau contrat, il y a l'inflation des salaires, il va prendre 55 millions sur ses 4 ans. Donc ça veut dire 12,6 millions de dollars la première saison.
L'inflation, c'est terrible, l'inflation, ça décolle. Je me le disais quand.
Et pour info, Zachary Zaché, cette année avec Bourg-en-Bresse, a gagné 90 000 euros net sur la saison. Et l'année prochaine, ils vont prendre 12,6 millions.
Merci beaucoup, Stephen. Donc, on les surveillera évidemment en NBA l'an prochain et dans quelques années.
Mais dans la
dès l'été prochain, en équipe de France.
On va champion olympique, Stephen?
Là, cette année. Non, médaille d'argent.
Est-ce que, comme la question moyenne, est-ce que tu dirais qu'on a plus de chances d'être champion olympique à Los Angeles ou à Paris? Vraie question moyenne.
À Los Angeles.
Ah, quand même.
Bah, donc c'est mort pour Stan.
Ah bon. Merci. 17h40 avant le Kikadi, nous accueillons Jérôme Rotten. Salut Jérôme.
Bonsoir à tous.
Oh, le GG, comment il va?
Comment vous allez? Ça va?
Hier, on n'avait pas dit, et Pierrot, sur les paris, on n'a pas mis Ukraine match nul. L'Ukraine
match nul, oui, absolument. Je crois qu'on a dit ça.
Et voilà, papa, 4 et quelques. Et voilà, qui connaît le foot, GG, bien sûr, on a mis ça.
C'est Vincent qui avait dit match nul.
Bravo, Vincent.
Mais alors, on va quand même t'écouter.
Ah, bah, quand même, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. On est en plein euro, même s'il n'y a pas de match, mais on débrief tout ça. On va parler de la Belgique, bien sûr. Est-ce que la France doit avoir peur de la Belgique avec le niveau de la Belgique encore hier? Ce qu'on a vu, on va faire un bon débat à 18h avec Manu Petit. Et avec Christophe Dugarry. On va parler de Willy Sagnol aussi, accusé le foot français d'avoir oublié Willy Sagnol, qui réalise des choses exceptionnelles avec la Géorgie. Et on va parler aussi, je me chauffe contre Ronaldo, du moins je vais défendre Ronaldo parce que Christophe Dugarry hier l'a bien massacré pendant le match. Donc on va en parler à partir de 19h. Oui, on touche pas à Cricri. Rendez-vous dans 20 minutes. Ça va être génial.
C'est à 18h pile comme tous les jours sur RMC. Avant cela, le Kikadi arrive.
Tout à fait. Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 11h46, le Super Moscato Show sur RMC, top jingle.
RMC,
le Kikadi
du Super Moscato Show.
On est ravis de savoir que Narbonne se trouve dans les Caraïbes, du coup, Vincent, mais écoute, c'est pas grave, on va continuer quand même.
Oh, 17h46, qu'est-ce que j'ai dit?
Didier, Damien, bonjour.
Et bonjour.
Salut Adil.
Didier et Damien, artisans dans le bâtiment pour Didier, artisans électriciens pour Damien, car cette semaine, le Kikadi vous est réservé parce que c'est l'ouverture de la 6e édition des meilleurs artisans de France RMC. Je vous rappelle les 5 métiers en compétition si vous voulez venir nous montrer votre savoir-faire. Carreleur, maçon, peintre, décorateur, plâtrier et plombier, chauffagiste.
Le roi de la langue de chat.
Vous vous inscrivez sur RMC.fr.
Là, je suis plombiste, moi,
plomberie là ?
Plombiste.
Alors, Didier, tu vas choisir ton équipe. Personne n'a inscrit le premier point parce qu'on était nul sur les questions de Formule 1.
C'était Lance Stroll chez Aston Martin qui prolonge.
Donc c'est un tirage au sort intégral, sans tête de série, mais avec une boule noire.
Il y aura une boule noire ? Je ne sais pas sur qui ça va tomber.
On la connaît. Attention. Oui, on l'a collé.
Alors, la doublette.
La doublette, donc, Stephen Brun.
Ouais, c'est un très bon tirage au sort pour celui qui va être avec moi.
Patron de l'association des supporters de l'équipe de France de foot.
Voilà. L'homme au poulet.
Le nouveau Clément d'Antibes.
Le Chicken Brown.
Associé à Eric Dimeco. Belle équipe.
Très belle équipe.
Et Pierrot, tu retrouves ton frérot, Vincent Moscato.
Mais quand même.
On va les destroncher.
Destroncher.
On va vous filer des coups de béret plein de casque.
Allez, destroy chez nous. Allez.
C'est Pippen et Jordan, ça fait longtemps. Chez nous.
Des coups de béret au moment.
Bah, ils n'ont pas gagné depuis 98, l'air de rien. Hein.
Pio, bravo. Et s'il a choisi, il a juste son équipe, le
Didier, avec qui tu veux jouer là?
Eh bien, écoutez, j'ai toujours été supporter de Vincent, puisque j'ai habité très longtemps à Bègle.
Ah!
Mais voilà. Pour une fois, je vais lui faire une fidélité.
Trahison! J'espère que vous allez perdre, lui, bébé. Voilà.
Didier, est-ce que tu allais à Musard? Est-ce que tu allais voir l'équipe de Vincent jouer, là, dans les années 90?
Bon, tout à fait. J'habitais au Dora, c'est juste derrière. Et j'y allais très régulièrement.
Est-ce que ça jouait bien ou pas? C'était comment?
Ah, c'était rude.
C'était chiant, hein.
C'était rude.
Non.
Il faisait des petits paquets.
Ça gagnait.
Allez, c'est parti pour le Kikadi, messieurs, dames.
Ça régalait, quoi.
Des bons souvenirs, ça.
Les foules, quoi. Faisait lever les foules, quoi.
Ça aurait dû être la décennie bègle, hein.
Ils n'avaient pas pété le boulard.
10 minutes dans ce Kikadi du jour. Une éventuelle golden carotte qui pourrait mettre le score à 0-0 à la fin. C'est parti. Il y a de tout. Il y a des questions triviales poursuites, Eric. Il y a des citations.
Ah, c'est
Il
y a des accents?
Il y a des accents. Non, il n'y a pas d'accent. Il y en aura demain. Il y aura une charade demain. Demain, on va faire travailler Frédéric Pouillet pour la dernière de la saison. Kikadi. Pour stopper Mbappé, j'ai quelques idées.
Meunier, Thomas Meunier.
Mais je n'ai pas envie de tout vous donner en interview. Thomas Meunier, ancien joueur du PSG, latéral droit belge, qui a pas
Il a passé au moins une saison avec Mbappé.
Il a pas joué.
C'est bon, les mecs qui disent ça en conférence de presse, c'est bon, il va te frapper dans les cadrages de débordement, l'autre il va lui mettre un.
Non, mais surtout qu'il a pas joué.
Meunier, il est pas titulaire, il joue pas.
Il a même pas joué depuis le début de l'Euro, Meunier. Il a ramené.
Il a des idées pour.
Pour donner à ses potes, peut-être.
T'en as des idées, Eric, pour arrêter Mbappé, toi. C'est pour l'équipe, pour Stephen, Eric et Didier.
L'assaut,
voilà. BFM TV.
Lequel l'assaut?
Le carabine en plomb.
Qui a dit? Écoutez, moi, sur ma retraite, tout le monde le sait, après avoir payé les impôts,
Vincent Labrune,
Dev.
Lafond, ça passe à 600 et quelques euros par mois.
Michel Drucker.
C'est déjà pas mal. C'est une artiste très connue.
C'est comment elle s'appelle? Celle qui faisait avec Mouche Diouf.
Non, pas du tout. Julie Lescaut n'existe pas. Elle a dit ça sur C8. Elle est très connue.
Ah, l'ancienne SDF là?
Non.
Daniel Gilbert.
Elle a plus de 80 ans.
Ah voilà, c'est comment elle s'appelle?
Elle a gardé dans
son nom.
Elle fait toujours de la scène.
Chantal Goya.
Chantal Goya.
Bien joué.
C'est possible, elle a sa SEM là.
Oui, mais c'était les indépendants. Non, mais attends, elle parle uniquement de sa retraite.
Parce qu'elle. Elle a produit pendant 20 piges là, quand même.
Chantal Goya qui a gardé depuis le début tous ses décors dans un énorme hangar chez elle. Décors et ses costumes. Ouais, mais attends.
Oui, mais ça aussi.
Table artiste.
Mais ça aussi, il a gardé tous ses costumes. Le seul différent, c'est qu'il les met toujours.
Elle a toujours mariée avec Jean-Jacques Debout.
Ouais.
Bien sûr.
Et Pierre Azoulay.
Et donc, Stéphane.
Ah, du tout.
Égalité.
C'était Arantxa Sanchez, sa joueuse préférée, Jean-Jacques Debout.
Kikadi, tiré par les cheveux. Contrairement à ce qu'a dit Monsieur Lorenzetti, Sia n'est pas gros et il n'est pas transparent.
Lancaster.
Qui s'appelle contrairement à ce qu'a dit.
C'est Colissi qui dit ça.
Lombard.
Mais Nina Beur.
C'est comment il s'appelle? L'ailier.
Non, c'est pas l'ambiance. Mais oui.
Travers.
Mais qui c'est
Lancaster. Vincent.
Le coach de l'Afrique du Sud.
J'ai un trou dans la tête. Je dis pas rien.
C'est comment il s'appelle le coach de l'Afrique du Sud déjà?
Erasmus.
Merci.
Mais je suis nul.
Lorenzetti,
vous avez fait une passe d'ess.
Jackie Lorenzetti, le patron du Racing, a allumé en fin de saison dans une interview Sia Colisi en disant qu'après sa blessure, il a pris des kilos et qu'il était transparent sur le terrain en venant.
Putain, mais Erasmus, comment
il est sélectionné avec l'Afrique du Sud et Rassi Erasmus, son boss, dit non, il est pas gros, il est pas transparent.
Et la boule noire est en tête dans les sondages.
Ah, une bonne boule noire. Tendance favorable.
Deux réponses à la boule noire.
Oui. Bah, bravo, c'est Vincent à la boule noire.
The Black Bowl.
Ah, c'est cool parce que par ma case, c'est quand tu commences à être en forme.
Question en un coup. Une seule proposition possible, sinon c'est but contre son camp, soyez très attentifs. Le héros en ce moment de cet euro, c'est Willy Sagnol. Le 28 septembre 2017, il entraînait quel club?
2017
Bordeaux, éliminé. Bayern Munich, oui. Il a été nommé entraîneur intérim suite à l'éviction de Carlo Ancelotti à l'époque, souvenez-vous. Il a dirigé un ou deux matchs du Bayern Munich. Il a été nommé le 28 septembre 2017. 2-2, Sagnol, égalité. Bravo Stephen.
Merci Eric.
Didier et Damien. Allez, question auditeur. Ah, on va voir si vous êtes attentif.
Allez Damien.
Allez la Did.
Si vous êtes attentif au Moscato Show et à l'émission du jour. Samedi, de quelle ville s'élancera le Tour de France?
Florence.
Oui, qui a dit Florence?
Didier, bravo, magnifique.
Damien.
Allez, c'est pour nous, à papa.
Didier, il connaît rien, Didier. Il habite derrière le stade à Bègle. Oui.
Ah, Didier, réponse à Stephen, là, qui est en train de t'allumer, Didier?
J'y suis plus, mais j'y étais longtemps, oui. Ah,
ben, c'est parti, Didier. Là, le trash talking de Florence.
Pour l'équipe Moscato.
Magnifique ville italienne, Vincent.
Ah ouais, bien sûr.
La ville de l'amour. C'est
un endroit.
Mais oui.
C'est un endroit.
Mais moi, je vous pose une question.
Nous en sommes à Marseille un peu.
Dans un an. Dans quelle ville s'est lancé le Tour de France? Non, c'est en 2026, Barcelone.
Ah merde.
Lille. Oh, mais Pierrot est là. 2025, ce sera Lille, le Grand Lille. Oui.
C'est un festival.
Du hasard. Du hasard?
Non.
4-2, non, 5-2, Pierrot.
Non, 4-2, t'énerve pas.
4-2.
Il y avait 2-2 avant la question auditeur.
Il reste 4 minutes 20.
Dans un instant, la boule noire va-t-il continuer son festival? Il marche sur l'eau. C'est tout de suite sur RMC.
RMC, tout de suite, la fin du Kikadi.
Le score 4-2 pour l'équipe Moscato. Il reste 4 minutes 20.
Une nouvelle question auditeur. Alors, Didier, Damien. Je suis désolé, c'est un peu déséquilibré, mais je savais pas qui serait avec nous au niveau auditeur, donc c'est comme ça, c'est le hasard. Oui. Demain, comment s'appellera le capitaine de l'UBB pour la finale?
Lucu.
Qui a dit Lucu?
Didier.
Didier, merci.
C'est le hasard. Parfois, ça favorise une des deux équipes. C'est comme ça. Maxime Lucu, capitaine de l'UBB. Qui a dit? Honnêtement, je ne pensais pas à la première chip et je n'avais pas envie d'y entraîner.
Will
jusqu'à ce que les Leicester Tigers viennent me voir.
Ah non, c'est du rugby ça.
Il a signé.
C'est du rugby ça.
Il va entraîner en Angleterre.
Colazo.
Leicester.
Attends. C'est quoi, c'est du rugby ça?
C'est du rugby. Il est connu. Non, c'est officialisé aujourd'hui.
Oui, mais on l'a vu il y a quelques temps cette info. Non,
cette personne a été sélectionneur. Il a même joué une finale.
Sheka.
Eh
oui.
Ah, bravo Eric. Celle-là, je te dis bravo, mais je sais comment elle est arrivée, mais on va la prendre.
Je regrette pas du tout. Vous êtes des vilains. Il dit sélectionneur, bim, Sheka.
Michael Sheka, qui a été sélectionneur de l'Australie, de l'Argentine, qui va entraîner en Angleterre, Vincent. Voilà, Michael
Sheka. Barbizier, il a été sélectionneur.
Mais oui,
du Gomez.
Mais non, mais un mec qui est dans le circuit encore quand même.
Non, mais t'as vu, il doute de toi, Eric.
C'est pas grave.
Ça fait 4 parties. 4-4, égalité, 2 minutes 45. Je sollicite encore les auditeurs, puisqu'ils m'ont l'air pas mal. Didier et Damien. Parlons de l'histoire du Stade Toulousain. Demain, c'est la finale. Hein. Toulouse est en finale du top 14. Quel joueur a marqué le plus de points dans l'histoire du Stade Toulousain?
Michel Hacquin.
Non, mais ils ont joué ensemble un petit peu.
Les gars, quand même.
Ah, c'est pas évident.
Comment c'est pas évident?
Nombre de points, pas d'essai, de points. Le point.
Allez, Dédé.
Point de points.
Il butait. Il était numéro 9, plutôt.
Vélo.
Non. Il a entraîné un peu.
Didier, balance des noms.
Il a entraîné à Montpellier aussi, un petit peu.
Gâté?
Non.
Les gars, l'autre.
Allez, Dédé, balance des noms.
Vous avez dit Vélo aussi un peu à La Rochelle.
C'est une famille de rugby, une famille de Rochelais.
De La Rochelais. Un demi de mêlée.
Neuf.
Un petit.
Malin. Son prénom, c'est Jean-Baptiste.
Elissade.
Qui a dit Elissade en premier?
Bien, Didier.
Ouais, normal, Didier. Pendant 20 ans, il habitait derrière le stade.
Oui.
Gentil supporter de l'OM.
T'as compris, Pierrot. Lucu, demi de mêlée. Elissade, demi de mêlée.
5-4, c'est pas grave. Vincent, on va gagner dans l'adversité.
5-4.
Plus de 1700 points pour Jean-Baptiste Elissade.
Bravo, JB.
Au Stade Toulousain, JB.
Je pensais que c'était clair, tu vois.
Non, mais clair, c'est les essais.
Les essais, c'est pas clair. Dis-moi, les essais, ça fait des points quand même, non?
Ça fait 5, mais il en marque pas tous les matchs.
Donc.
L'autre, il marquait tout le temps, quoi.
Ouais, c'est pas clair ce que c'est.
Comment ça fait, ça passe?
Qui a point d'avance pour eux? C'est compliqué, et d'autant plus compliqué ma situation que je veux jouer Wimbledon une dernière fois.
C'est moi.
Andy Murray qui revient une nouvelle fois d'une opération chirurgicale qui veut disputer un dernier tournoi.
Je savais que ça allait pas passer
ce soir. Il attend le dernier moment pour savoir s'il se retire ou pas.
Voilà, il aime bien jouer au tennis, lui.
Après, il faut faire gaffe.
Le petit mur, il aime bien.
Question en un seul coup.
J'ai entendu avec un.
On va se retirer pour tard.
Une seule proposition possible. Quel sport pratique Travis Kelce?
Deux réponses de Siphon pour l'adversaire. C'est lui, voilà.
C'est monsieur Taylor Swift. Et il est monté sur scène ce week-end à Londres avec Taylor Swift.
Allez vite avant qu'ils nous disent d'arrêter, Fred.
Vite.
Un point d'écart.
Enchaîne.
J'enchaîne avec une BFM TV.
Nous on est fair play. Contrairement aux petites gens contre qui on joue.
C'est une question hors sport, un peu de cinéma. C'est un film événement. Qui réalise le film Le Comte de Monte Cristo?
C'est pas Niné?
Réalisateur.
Qui ça peut être?
Francis Weber.
Vous avez deux possibilités, il y a deux réalisateurs.
Il y a deux réalisateurs. Ah ben c'est Nakache.
Trois.
Ah ben non, je sais pas moi.
Deux.
De la porte.
Pas de la porte, non.
La porte.
La porte, oui, Pierrot. Mathieu La Porte.
L'autre il triche, il sait pas lire le truc. Il triche, il le donne à l'autre.
Mathieu La Porte et Alexandre de la Patelière. Voilà.
Balle de match.
C'est parti. Est-ce qu'il y avait la Golden, Fred, par curiosité? Non, il n'y avait pas la Golden.
Bravo, Vincent.
Piro, j'étais bon, là, non?
Très bon.
Oui, magnifique.
Non, mais attends, c'est le cinéma.
3, je trouve, quand
même. C'est le cinéma, Vincent, est dans le cinéma.
Non, il est dans le cinéma. La porte, c'est pas bon.
Allez, balle de match. Qui a dit? Bon, pour la conférence de presse. On fait ça en 5 minutes parce que là, la Belgique joue. Donc je vais voir la Belgique.
Deschamps.
C'est pas un footballeur.
David Goffin.
Ah oui, c'est Evenepoel.
Evenepoel. Remco Evenepoel. Hier en conférence de presse, le cycliste belge a dit la conférence de presse. Vous êtes gentil.
De Didier. Bravo Didier.
Le Kikadi sur RMC avec Foot Dimanche, la marque préférée des fans de foot. Retrouvez les derniers t-shirts et suites vintage de vos équipes préférées sur footdimanche.com.
Et on se retrouve demain 15h avec un Vincent en pleine forme. Pour l'heure, c'est Roten sans flamme avec Jérôme Roten et Jean Dutour.
Retrouvez tout de suite le Super Moscato Show en podcast
sur rmc.fr et l'appli RMC.